L'eurodeputat François Alfonsi és aquí dins els llocs de Ràdio Lengodó i l'esplà acompanyat també pel deputat Pau Mulac, que és aquí al nostre plateu. Alfonsi és en de foro. E Mulac és a l'iniciativa de la pla conegut de Lei Mulac, la Lua Mulac. Són venguts per un rendezvous amb de caps polítics de la vila de Montpellier, mai han pres un moment per rendre visita d'occitans aquí del canton. És casenso de lur pausar qualques qüestions si és la seguida de la Lei Mulac. Lo pla bonjour, deputat Pau Mulac, et pla merci d'être aquí amb nosaltres. Bonjour, monsieur Mulac, merci beaucoup d'être avec nous ici sur Radio Lengodoc. Monsieur Mulac, on connaît déjà, tout le monde est au courant de la question de la loi Mulac. La société, finalement, connaît les tenants et les aboutissants de la question des langues régionales aujourd'hui, peut-être grâce à votre initiative, à la loi Mulac. Puisque le Conseil constitutionnel estime que l'article 2 de la Constitution interdit l'immersion, et que désormais nos enfants bilingues doivent se tenir au français à la cour de l'école, je vais vous poser une question très basique, monsieur Mulac. Est-ce que nous sommes de retour à cette époque-là où il était défendu de cracher par terre et parler breton ?
Alors, sans doute pas, parce qu'on voit bien que l'état d'esprit qui est celui du ministre de l'Éducation nationale, est un état d'esprit qui effectivement date du siècle passé, et plutôt du début du siècle passé. Mais on voit bien que cette politique qui consiste à faire taire les langues régionales n'est plus comprise ni par la population, ni par une bonne partie des élus. Alors, je le crois parce que, vous savez, en Bretagne, il y a eu l'histoire du petit Fanche avec son tilde. Et donc, les signes diacritiques sont interdits dans l'état civil. Et les parents ont tenu à ce que ce soit le cas. Donc, ils ont fait, évidemment, des actions en justice. Et quelle a été la réponse de l'opinion ? Parce que c'est ça qui est intéressant. Je pense qu'il y a 30 ans, l'opinion aurait dit « Bon, c'est pas la peine d'aller au tribunal pour ce genre de choses ». Et aujourd'hui, quelle est l'opinion, finalement, de la personne de la rue qui n'a pas envie d'appeler son enfant Fanche, qui n'a même pas envie d'apprendre le breton ? Il dit « Ben, l'administration n'a pas autre chose à faire que nous emmerder avec des conneries, pour parler clairement ». Donc, en fait, la population n'en est pas encore à apprendre la langue régionale, mais elle ne comprend plus pourquoi on veut faire taire ceux qui la parlent. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui a été fait depuis une quarantaine d'années. Et c'est un mouvement long, c'est un mouvement qui est aussi mondial, hein, et il faut bien le voir, c'est-à-dire la récupération de son histoire, la récupération de ses racines, de ce que l'on est. Et c'est certainement le contre-coup un peu de la mondialisation, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on est mondialisé, qu'on peut aller à l'autre bout du monde, et bien en même temps, on a besoin de retrouver quelque chose qui nous est propre. Et c'est un mouvement qui a commencé dans les années 60, avec le français, par exemple, au Québec, avec les langues amérindiennes également. Donc c'est un mouvement mondial, un mouvement qui, jusqu'à maintenant, en France, a été certainement empêché de pouvoir progresser par une mystique de l'État français qui avec une langue unique. Hein. Vous savez, quand Blanquer vous dit « En France, c'est l'État qui fait le citoyen », c'est quand même un programme politique. Moi, je pense que dans une démocratie, c'est le citoyen qui fait l'État et pas le contraire. Donc l'État a décidé que nous devions parler qu'une seule langue. Eh bien, je crois que c'est aux citoyens de leur dire « Ben non, on peut parler des langues différentes, on peut même les parler dans le même individu, peut parler des tas de langues différentes ». Et ça, je pense que... Alors, ma loi n'est qu'un aboutissement par rapport à ça. C'est-à-dire que c'est le moment où, quelque part, on voit la chose dans les médias, parce que les médias, même parisiens, s'en sont emparés, où on voit les journalistes... J'ai jamais eu autant de questions de journalistes. Mais c'est juste un révélateur d'un mouvement qui a commencé il y a 50 ans et qui, petit à petit, avec les Calandrettes, avec Diwan, avec
Bressol,
les Bressol, les Chachka, etc., mm-hmm. Et ce mouvement-là, avec les classes bilingues dans le public, quelquefois dans l'enseignement catholique quand il y en a, et on voit bien que ce mouvement-là, quelque part, fait un peu tache d'huile au niveau de la perception que peuvent en avoir les gens. Alors, comme je disais, ils ne sont pas encore à apprendre la langue, mais ils ne comprennent plus qu'on veuille faire taire ceux qui veulent l'apprendre, ou qu'on empêche ceux qui veulent l'apprendre de le faire, ou qu'on empêche ceux qui veulent la parler de le faire.
Monsieur Moulac, après cette censure partielle de la proposition de la loi pour la défense des langues régionales ou langues autochtones, la loi Moulac, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le mardi 25 mai à l'Assemblée nationale qu'il allait confier à deux députés une mission afin de tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Question, on connaît déjà le nom de ces deux députés qui feront cette affaire ?
Oui, il y a un député breton qui s'appelle Yannick Kerlogot et un autre qui s'appelle Christophe Heuzet, qui doit être justement député de l'Hérault.
Et vous,
catalans d'origine.
Oui, le député Heuzet qui était aussi à l'origine de la loi contre la glottophobie.
Exactement.
Alors, vous êtes en relation. Comment ça se déroule depuis cette nomination et qu'ils ont été confiés pour cette mission ?
Pour l'instant, ils font des consultations. Mais il est bien clair qu'il peut y avoir des manœuvres dilatoires et des manœuvres qui ne sont pas dilatoires. C'est-à-dire qu'on peut faire revoter un article qui dit, sous une autre forme, qu'on peut faire plus de 50% du temps en langue régionale, mais cet article-là sera toujours sous la menace, en fait, d'une censure du Conseil constitutionnel, puisqu'il ne va pas changer sa façon de voir. On avait cru, avec l'intégration du 75-1 en 2008, les langues régionales font partie du patrimoine de la France, que le Conseil constitutionnel aurait revu sa position. Clairement, ce n'est pas le cas. Donc, nous n'avons d'autre choix, finalement, que de lui dire que les signes diacritiques et la méthode par immersion sont constitutionnels. Point. Il va falloir le mettre clairement dans la Constitution. Alors, je sais que c'est un peu idiot de mettre des choses qui sont aussi précises dans la Constitution, parce que normalement, c'est plutôt du domaine de la loi, voire du règlement. Mais il n'y a pas d'autre façon de dire au Conseil constitutionnel que son interprétation n'est pas la bonne. Parce qu'en 1992, lorsqu'a été voté cet alinéa de l'article 2 qui dit « le français est la langue de la République », le constituant Assemblée nationale, le constituant Sénat ont bien dit que c'était tourné contre l'anglais, pas contre les langues régionales. Et en fait, le Conseil constitutionnel a pris sur lui de faire cette interprétation et de le tourner contre les langues régionales. Donc il n'y a guère d'autre solution, si vous voulez, que de le mettre clairement dans la loi, dans la loi fondamentale qui est la Constitution, peu importe l'endroit, mais clairement, pour dire, les signes diacritiques et la méthode par immersion sont constitutionnels.
Bon, là, Monsieur Moulac, nous sommes en pleine période des élections régionales, départementales. D'ici pas très longtemps, les élections présidentielles. En quelle période on va, justement, dans cette demande d'un changement de la Constitution, puisque celle serait vraiment la seule réponse juridique capable d'écrire dans la Constitution et que la France et que l'État ont le devoir de soutenir les langues régionales. Nous avons de notre côté, je parle nous, parce que nous sommes tous dans cette bataille pour la promotion, la transmission et la sauvegarde des langues autochtones, les langues historiques, les langues régionales de France. Nous avons le président de la République qui a fait une déclaration favorable aux langues de France. Est-ce que vous vous sentez confiant d'avoir cette force de votre côté ?
Vous savez, la politique, c'est toujours un rapport de force. C'est pas de la morale. Donc, nous sommes dans une période très intéressante pour pouvoir mener à bien ce combat. Parce que aucun des candidats à la présidentielle, qu'il soit de droite, de gauche ou du milieu, sauf peut-être les extrêmes, ne sera opposé à une révision de la Constitution pour mettre l'immersion dedans. Parce qu'on a un vrai problème juridique. C'est-à-dire que demain, on pourrait dire, les calendrettes, par exemple, perdent leur contrat d'association qui font que l'État paye les professeurs. Dans ces cas-là, ils ne peuvent plus vivre. Donc, il y a cette menace-là. Et moi, je n'ai pas l'intention d'attendre 2022 un président qui sera élu, qui nous aura sans doute dit avant qu'il était pour, bien sûr, qu'on change la Constitution, mais qui, dans la réalité, ne fera pas grand-chose. Je rappelle quand même que Hollande s'était engagé à ratifier la Charte européenne des langues minoritaires et ne l'a pas fait, que Macron s'était engagé à ratifier la Charte européenne des langues régionales, il n'a même pas essayé de le faire. Donc, si vous voulez, les paroles, c'est bien, c'est réconfortant, mais ce n'est pas ça qui change les choses. Donc, le gouvernement a la possibilité, là, de proposer un texte aux sénateurs et aux députés. Il vaudrait mieux, d'ailleurs, qu'il le propose aux deux en même temps. Et de faire ensuite un congrès, ça, c'est l'histoire de 6 mois. Mais il faut une volonté politique. Donc si le président de la République est sincère, eh bien moi je lui dis, dans ces cas-là, initier une révision de la Constitution. J'ai fait...
Ça passe par le président de la République, soit c'est par référendum, donc...
Alors le problème, c'est que les députés n'ont pas l'initiative des lois, ou très peu. Donc aujourd'hui, dans les 6 mois qui viennent, c'est soit un projet du gouvernement... Soit ça ne pourra pas se faire avec des députés. Nous, par exemple, jusqu'en 2022, nous n'avons pas la possibilité de proposer une proposition de loi constitutionnelle. Ce n'est pas possible. Donc c'est le gouvernement qui doit le faire. Donc je dis simplement qu'il faut mettre en accord les paroles avec les actes. Et je ne vois pas quel serait le futur candidat de droite ou de gauche qui dirait qu'il ne veut pas le faire, sachant le problème qui se pose. J'ai fait une lettre que j'ai proposée aux collègues députés et sénateurs. Il y en a plus de 120 qui ont signé. Et ça en quelques heures. Et dont la majorité sont des députés de l'opposition. Parce qu'évidemment, ce sont les députés de l'opposition qui, en général, empêchent de faire une révision constitutionnelle. Donc sur ce point particulier, et uniquement sur ce point-là, un projet de loi qui vient du gouvernement a des chances non négligeables de passer. Et on peut compter sur les associations pour faire la tournée des sénateurs et des députés pour leur expliquer l'intérêt de la chose. Donc moi, je pense que c'est faisable, mais il ne faut pas attendre 2022, il faut le faire tout de suite. Après 2022, ce sera « les promesses n'engagent que ceux qui les croient ».
Monsieur Moulac, merci beaucoup pour avoir passé ici au micro de Radio Languedoc. Et vous pouvez compter sur nous et notre public pour soutenir cette action. Et la Lei Moulac, plein merci. Adicias.
Adichats. Trugarivrose.